Eh bien, bonjour, bienvenue à cette nouvelle rencontre proposée par le Festival d'Avignon et France Culture. Une rencontre que vous pourrez écouter dès cet après-midi, écouter et réécouter sur le site France Bleu, sur le site France Culture, plus exactement, ne nous trompons pas de Radio France. Le premier spectacle que nous allons aborder ce matin, eh bien, c'est le syndrome que nous pouvons voir jusqu'au 11 juillet à 18h au gymnase Saint-Joseph. Et nous allons en parler en compagnie du metteur en scène Sergio Boris, de son assistant Adrian Silbert, sans oublier Gabriel, qui va effectuer la traduction. Le syndrome, c'est un spectacle qui réunit Sergio Boris, mais également 14 élèves de l'ESTBA, c'est-à-dire l'École supérieure de théâtre Bordeaux-Aquitaine, dirigée par Catherine Marnas. Alors, la première question, Sergio Boris, en rappelant, comme vous avez au Festival d'Avignon, dans la Pesca, hein, de Ricard.
Pecado que no se puede nombrar también de hace 15 años atrás.
C'était il y a assez peu de temps, il faut le préciser. Comment s'est passée la rencontre entre ces élèves, Catherine Marnas, qui tenait vraiment à ce qu'il y ait un contact entre ces élèves et un metteur en scène étranger, et vous-même?
Comment fue l'encuentro con los alumnos, con Catherine Marnas, entre los alumnos, Catherine Marnas y tú, el primer encuentro, las primeras...
Bueno, el encuentro fue así muy, muy intenso, placentero, novedoso para ambos lados. La idea de este cruce, de esta posibilidad, es de la Escuela Superior de Teatro de Aquitán, de Bordeaux, y junto también con Judith Martán, que originalmente proponen esta posibilidad de cruce de un director argentino, con asistente de dirección también argentino, y hacer una obra con alumnos de esta escuela.
Donc, la rencontre a été très intense, très nouvelle pour lui, ça a été un réel plaisir. C'est ce qui l'intéressait surtout, c'était l'idée du croisement, de l'échange qui est né donc de l'idée de Judith Martin, qui a proposé cette possibilité de faire ce croisement entre les élèves de l'ESBA et un metteur en scène et son assistant de mise en scène argentin.
Las condiciones para la création de esta obra fueron para nosotros, para Adrián, y para mí ideales, ¿no? Con un aporte muy fuerte también por parte de todos los de la escuela, que contribuyeron, de acá, de Gabriel, del compañero Gabriel también contribuyendo, o sea, todos muy metidos en la construcción también de la obra, y también, sobre todo, agradecer el trabajo de unos actorazos que con los que pude contar también para hacer esta obra, donde también es necesario... Para hacer una obra con 14 personajes y con un intento de que haya un desarrollo de vínculos y que haya situaciones y que haya multiplicidad de planos, esos actores, ¿no? Que son muy buenos, muy talentosos, sorprendidos nosotros, asombrados por el talento que tienen y por también el nivel de compromiso frente a la obra, la proposición, el proponer desde la actuación, ¿no? Que también es importante.
Adrián. Y también el trabajo en un tiempo muy veloz, donde se fue construyendo la obra en conjunto, mutuamente, una dramaturgia que está trabajada con la interacción con los actores. Y indudablemente nosotros estamos a veces... con otra disposición, y acá nos encontramos, cuando trabajamos en Argentina, la diferencia que acá, paralelamente, el trabajo de escenografía, el trabajo de la iluminación, todo fue conjuntamente y en tiempo continuo, en tiempo que todo se daba, y todo por eso, reitero lo que dijo Sergio, que solo fue posible... por esta situación de acompañamiento y de trabajo en conjunto.
La traducción, a la fois des propos de Sergio Boris et également de Adrian Silbert.
Donc les conditions pour créer, les conditions pour la création ont été idéales. Et ils se sont sentis vraiment soutenus avec un appui et un apport très fort de toute l'école. Vraiment cette idée que tout le monde était engagé dans ce projet, même les acteurs qui sont des grands acteurs, qui sont 14, donc ils ont vraiment pris en charge la création des liens entre ces 14 personnages. Ils ont pris en charge aussi la gestion des multiples plans donc, qui sont à l'œuvre dans El Síndrome durant la pièce. Ils ont été surpris, étonnés, ils ont été épatés aussi donc, par cette implication de tous. Parce que c'est ce que soulignait Adrian, c'est qu'ils ne sont vraiment pas habitués à travailler comme ça. Ils travaillent dans un temps beaucoup plus lent, avec des délais de création beaucoup plus longs. Et ici, ça a été un temps très court, 3 semaines, un temps très rapide. Et donc, ils ont vraiment pu s'appuyer sur les apports de toute l'équipe de l'école, des 14 acteurs, qui donc a permis ce travail en continu.
L'idée de ces 11 acteurs français qui arrivent en Argentine et qui ne peuvent plus repartir, et qui perdent même l'usage de leur langue française. Cette idée, elle est arrivée au fil des répétitions, elle est arrivée du plateau, ou c'est vous qui l'avez insufflée, justement, au fil de l'immersion qui s'est déroulée, notamment en Argentine?
Je pense que si l'idée de ces 11 acteurs français perdus en France apparaît dans le transcurso de los ensayos, ou era ya algo que teníais en mente?
Era una hipótesis que fue naciendo a principios de febrero, cuando ellos ya habían ido para Buenos Aires para hacer todo ese mes de improvisaciones y un poco previamente ya para darle carnadura a la decisión de que hablaran en castellano, se estimuló la posibilidad de generar una situación dramática que pudiera encarnar esta posibilidad de hablar en castellano, entonces todo lo que implica, que no sea solamente un procedimiento el hablar en castellano, sino la implicancia ideológica y darle un sustento dramático a esa decisión. Entonces...
Donc, effectivement, c'était une hypothèse de travail qui est née en février lorsque les étudiants de l'ESBA sont allés à Buenos Aires et ont rencontré Sergio et Adrián. Mais c'était déjà quelque chose qu'il avait un peu mis en place avant, parce que ça lui permettait de justifier le fait que ces 14 étudiants parlent en espagnol, et afin que ça ne soit pas juste un artifice, un processus théâtral, et que ça s'intègre réellement dans une dramaturgie, il avait eu cette idée de mettre en place cet oubli de la langue.
Que s'est-il passé entre le moment, la résidence en Argentine et le travail de répétition qui s'est effectué en France?
Que pasó entre la residencia de los 14 alumnos en Argentina y la llegada vuestra a Burdeos?
Y pasó, digamos, un trabajo en Buenos Aires con Adrián, con Gabriela Fernández, también la escenógrafa, de encuentros, de intercambio, de hipótesis de texto, porque yo necesitaba también entregar un texto antes de venir nosotros a Bordeaux. Entonces, en ese sentido, hubo un trabajo en esos meses de construcción de una hipótesis de relato que justamente lo que pasó es que al llegar acá se condensó todo eso en tres semanas, un trabajo que nosotros solemos hacer en 2 años para hacer una obra. Se condensó eso. Pasamos por todos los vericuetos de 2 años en 3 semanas.
C'est le travail qui s'est fait donc à Buenos Aires est un travail qui a été fait avec Gabriela Fernandez, la scénographe, et donc avec Adrián Silber. C'est un travail d'échange de la création d'une hypothèse de texte, parce qu'il voulait que les étudiants aient une hypothèse de texte sur laquelle travailler avant sa venue à Bordeaux. Et donc c'est ce qui fait que donc, quand ils sont venus, ils ont transformé un travail d'environ 2 ans en général en travail de 3 semaines. Ils sont passés par tous les problèmes qu'on peut avoir en 2 ans, à ce moment-là.
Au niveau technique, je me souviens de La Pesca, qui était un spectacle très, très visuel, très physique aussi. Il y avait beaucoup d'engagement de la part de, au niveau de l'interprétation. Est-ce que c'est significatif du théâtre qui se pratique en Argentine ? Et est-ce que vous avez insufflé ce type de discipline aux jeunes acteurs venus de France ?
Que vio La Pesca y se acuerda de un espectáculo muy físico, que muy, muy entregado de parte de los actores, y que si, es algo, si crees que es algo que es típico del teatro argentino, y si es algo que intentaste darle, intentaste convencer a los alumnos de ESBA de ese tipo de teatro.
Sí, Edía, con Ricardo Bartiz, que es el director de La Pesca, me encuentro muy afín en los procedimientos teatrales, en el pensamiento sobre el teatro, somos amigos, y hay una correlación en relación al tratamiento de los personajes, a los lugares expresivos, a cómo el relato teatral, lo que avanza no es a partir de lo que se dice, sino a partir de las fuerzas que traen los personajes, que no se sabe de dónde salen y que son misteriosas, pero hacen pegar los saltos narrativos. O sea, en ese sentido, esa adhesión a que sea que es el cuerpo expresivo del actor el que permite el salto y no por lo que se dice o por procedimientos plásticos o literarios, ¿no?
Donc oui, effectivement, ça lui vient de Ricardo Bartiz, avec qui il ressent une connexion très profonde sur le théâtre, quant à ses idées de ce que devrait être le théâtre. Il y a une vraie corrélation sur le traitement des personnages. Selon Sergio, le récit n'avance pas par le texte, mais plutôt par les relations et par l'expressivité des acteurs, et c'est donc à travers le corps de l'acteur qu'on peut atteindre ce degré de dramaturgie et d'expressivité théâtrale.
Et au niveau de la langue, il fallait que ce soit en espagnol.
L'idioma tenía que ser el castellano.
Claro, sí, sinon es imposible.
Est-ce qu'il parlait espagnol au départ ? Parce que Bordeaux, c'est vrai qu'on est près de la frontière. Enfin, on n'est pas à Perpignan, mais... Non, ah oui, c'est vrai, vous êtes... Oui, c'est vrai, on peut appartenir à une école, mais venir d'ici coin de l'Hexagone, vous avez raison. Alors, le spectacle en espagnol, la langue, l'espagnol.
Sí, era una necesidad para producir intercambio desde la dirección con los actores, siendo también que se desayunan los actores en Buenos Aires, cuando van ellos a la Argentina en febrero, ahí se enteran que parece que esto va en castellano. Entonces ahí aparecieron obviamente todos los conflictos con cosas de lo que podía ser una propuesta tan extrema en ese sentido, pero también con la esperanza de que eso permitiera también una expresividad corporal y un histrionismo que no estuviera... Porque ellos se quedaron sin sus bastones, digamos que es la herramienta idiosincrática de la lengua. Entonces, en ese sentido, cómo empezaron a generar una actuación, una expresividad, que nosotros sentimos también que ayer decíamos, hay una actuación argentina también.
Sí, indudablemente la dificultad...
On va d'abord laisser traduire Gabriel les propos de Sergio et après on donnera la parole à Adrienne et puis aussi à mademoiselle dont je ne connais pas le prénom, Annabelle, qui fait partie des 14 acteurs qui ont traversé l'Atlantique et qui sont revenus et que l'on peut voir au gymnase Saint-Joseph. On commence par le commencement, la traduction de Gabriel.
Donc oui, bien sûr, la langue espagnole était une nécessité pour permettre l'échange avec la mise en scène, avec Sergio et Adrienne. Mais aussi, c'est basé sur cette idée que quand ils sont arrivés en Argentine, ils ont découvert que ça allait être en espagnol, qu'ils allaient devoir utiliser l'espagnol. Et même s'il y a eu des conflits, même s'il y a eu un peu quelques problèmes, ça a créé un espoir qui était que ça permette une grande expressivité à travers le corps, une grande expressivité corporelle. Parce qu'ils se sont retrouvés sans garde-fou, sans le garde-fou que représente la langue. Et ça les a forcés à générer une énergie, à générer une expressivité avec les corps qui n'aurait pas pu être faite en français.
Adrián.
Sí, que esas dificultades, como dijo Sergio, de la lengua, generan como aperturas dramáticas que eso nos posibilitó, bueno, también afrontar la brevedad del tiempo con que este espectáculo, que hubiera sido imposible, que no sea así.
Donc oui, cette difficulté de la barrière de la langue, cette difficulté d'utilisation de la langue espagnole, c'est ce qui a permis de créer une ouverture dramatique, une intensité dramatique qui a permis de surmonter ce travail très bref de 3 semaines pour créer une pièce.
Alors Annabelle, est-ce que vous avez été déstabilisée par ce travail, d'abord sur la langue et puis sur les techniques de Sergio Boris et de Adrián Silbert?
Mais justement par rapport à la langue en fait et au fait que ce soit en espagnol, c'est justement, je pense, la perte dans laquelle on était avec le texte, avec la langue, puisqu'on parle, à part une personne dans la promo, personne parlait espagnol, plus ou moins. Et du coup, ça nous a tous plongés dans une perte qui nous obligeait à déjà trouver un langage commun entre nous, expressif, physique, et à libérer complètement l'imagination, puisque en France, quand même, le théâtre du texte et tout ça, c'est quand même un truc très ancré. Et du coup, ça nous permettait déjà de nous dégager de tout ça. Et puisqu'on a travaillé à partir d'improvisation, ça nous a vraiment permis de renforcer l'expressivité et ce qu'on voulait raconter avec le corps, c'est ce qui voulait nous faire travailler en Argentine. Donc c'était vraiment essentiel de parler en espagnol. Ce serait en français, ça n'aurait vraiment pas le non seulement le même charme, mais surtout ça raconterait pas du tout la même chose en fait.
Et l'idée de l'île, de la brigade de la Croix, ces idées sont arrivées à quel moment? Parce que de la Croix, c'est très français quand même. Ouais. On pense
c'est
au peintre.
C'est arrivé au tout début. On a oui. commencé. C'était pas du tout ce que ça représente maintenant dans le spectacle, mais c'est presque le deuxième jour des répétitions qu'ils nous ont demandé de former un tableau de la Croix. En fait, pour eux, c'est vraiment le symbole français.
C'est le radeau de la Méduse, c'est ça?
La liberté guidant le
peuple. Ah, la liberté, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ça vous a apporté le fait de travailler avec un metteur en scène d'une culture différente?
Bon, déjà, c'est une richesse, c'est une chance, c'est une richesse extraordinaire. Ça nous a permis, je crois, déjà de nous serrer les coudes en tant que groupe aussi, face à la déconcertation qu'on avait, parce que quand même, au début, on était assez déconcertés. Donc déjà, ça nous a bien...
Solidarisés. Soudés.
Après, c'est pas les premiers metteurs en scène étrangers avec lesquels on travaille, parce qu'on a travaillé pendant l'année avec Arpa Chilling, par exemple. Donc, mais c'est une force extraordinaire, puisque de découvrir ce qui se fait ailleurs comme théâtre, en fait. Et ouais.
Et la même question à Sergio Boris, qu'est-ce que ça vous a apporté de travailler avec des jeunes acteurs français qui ne sont pas issus de la même culture que vous au départ?
¿Qué os aportó el trabajar con actores franceses que no son de la misma cultura que vosotros?
La sorpresa es, vuelvo a insistir, digamos, es actoral, es el compromiso con la apuesta, con ese ir a un lugar novedoso, incierto, que no se sabía muy bien para dónde ir. Que genera este tipo de construcción de teatral, ¿no? Donde no hay un texto previo, donde hay una hipótesis de texto, pero que se va cambiando, modificando mucho porque se estimula mucho, todos los textos están estimulando posibilidades actorales, esa es la intención. No es que los actores están al servicio de decir un texto, sino que los textos es la intención que los textos sean posibilitadores de actuación. Entonces, no sé si querés...
La traduction de Gabriel.
Donc la grande surprise a été actorale. C'est au niveau de l'acteur qu'ils ont vraiment été surpris. Ils ont vu un très grand engagement avec la proposition nouvelle et incertaine qui leur proposait. Ils ne savaient, c'est une méthode de travail où ils ne savaient pas où ils allaient, ils ont un texte, une hypothèse de texte qui change, qui est tout le temps modifié en fonction de ce qui se fait en répétition, et le texte ne sert finalement qu'à stimuler l'expressivité et l'expression des acteurs.
También se necesitan y la comprobación nuestra de que son 14 actores poéticos, porque y no necesariamente necesitados de un psicologismo para contarle los personajes. Poético me refiero a que son que uno actúa no solamente el lugar expresivo del personaje, sino la totalidad, la música de la totalidad que también tiene que ver con el lenguaje, que es algo que lo excede como personaje. El actor una de las tantas cosas que actúa es el personaje y la historia. Después actúa también una música que se escucha, que es la sonoridad, la combinación del espacio y el tiempo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, profundamente agradecidos al talento de ellos y poder ver cómo ellos también manejan los tiempos, cómo ellos también tocan esa música juntos. Es muy interesante el trabajo con ellos.
Donc il avait besoin donc aussi que ce soit 14 acteurs et ces 14 acteurs là qui sont pleins d'une poésie qui n'ont pas besoin d'aller vers une psychologie du personnage parce que pour Sergio, l'acteur ne joue pas seul, il ne joue une des choses qu'il joue est son personnage. Et ensuite, il joue le groupe, il joue la musicalité du groupe, il joue les mouvements, une sonorité se crée dans cet espace. Donc, il est vraiment très, très étonné, très épaté de leur jeu et cette capacité qu'ils ont à prendre en charge les silences, prendre en charge la musicalité globale du groupe.
Voilà, donc pour ce syndrome, à voir aujourd'hui, demain et vendredi, c'est à 18h au gymnase Saint-Joseph. Et également samedi. Voilà, c'est vrai. Tout est dit. Voilà, merci beaucoup à Sergio Boris, merci beaucoup à Adrien Silbert, merci pour la traduction de Gabriel, merci et bravo à Annabelle qui représentait donc la promotion de l'ESTBA, l'École supérieure de théâtre de Bordeaux. Très très bon festival d'Avignon et puis Sergio Boris, j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir très très bientôt dans un lieu du festival, que vous avez marqué les mémoires lorsque vous êtes venu avec Ricardo Bartis. Puis n'oubliez pas que cet entretien, vous pouvez l'écouter à partir de cet après-midi sur le site de France Culture. Merci.
Merci beaucoup. À tout à l'heure.
Voilà.
Second invité pour cette fin de matinée dans le jardin du cloître Saint-Louis, avec donc un nouvel entretien que vous pourrez écouter dès cet après-midi sur le site de France Culture, avec un spectacle que l'on peut voir jusqu'au 12 juillet dans le très beau Tinel de la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. C'est à 18h. Vous avez rendez-vous avec la Winter Family et quelques invités, il faut les préciser. La Winter Family, eh bien, il s'agit de Ruf Rosenthal et de Xavier Klein qui sont là parmi nous. Et le spectacle s'appelle No World FPLL. Ruf Rosenthal, au début du spectacle, vous apparaissez. Lui, il avait des manches courtes. Vous, c'était un sweatshirt. On pense beaucoup à Steve Jobs,
oui,
qui, de son vivant, chaque année, venait nous présenter l'ordinateur idéal. Et vous, vous arrivez, vous nous présentez le monde idéal. C'est un peu ça le point de départ. Hein.
Oui, c'est ça. C'est une produit.
Comment vous est venue cette idée? C'est une irritation ou un regard ironique sur le monde de Steve Jobs?
Oui et non. Enfin, c'est un regard sur le monde. Et ce monde-là, c'est le monde de Steve Jobs aussi. Ouais.
Et dans ce monde parfait, en fait, il y a 9 applications, ou tout au moins 9 tableaux. Donc la beauté, la social-démocratie, l'amour, la jeunesse, les femmes, la nourriture, le capitalisme, le multiculturalisme et la joie. Alors là aussi, ces tableaux, comment sont-ils arrivés? Xavier Klein ne dit rien.
De façon totalement subjective personnelle. Enfin, il n'y a pas de grand plan derrière tout ça. C'est des tableaux qui nous intéressaient de développer par notre parcours personnel et les rencontres qu'on a fait entre le spectacle d'avant, Jérusalem plomb durci, et celui-là.
Et puis par des surf sur Internet.
Vous avez cité Jérusalem plomb durci qui a été montré à Avignon, c'était en 2012, hein, oui. Avec également Brothers. Et puis vous êtes également à l'origine, pour ce même festival, de la bande sonore, de l'univers sonore et de la musique de la Mouette, hein, qui avait été créée dans la cour d'honneur du Palais des Papes par Arthur Noziciel. Alors, vous avez le sens des formules, hein, je trouve, parce que vous avez dit que, vous avez même écrit que Jérusalem plomb durci, c'était Martine en Israël. Et que No World, c'était Martine en 2014.
Ouais.
C'est quoi la différence?
Enfin, 2015 maintenant. C'est comme à Jérusalem, c'est une espèce de parcours subjectif, mais documentaire, sur notre vie, et donc la vie des autres aussi, mais avant tout la nôtre, et donc sur Israël et sur l'éducation. Qui est à Israël, et donc la dictature émotionnelle. Et ici, Jérusalem, c'est une espèce de cri, peut-être, et ici, c'est une espèce de vomi, peut-être, quelque part, de notre vie quotidienne.
Comment s'est passée la rencontre et l'invitation avec lancée à Johanna Halit, Mamadou Gamassa?
En fait, on est... C'est puis... Gassama. En fait, on est musicien au départ, donc le théâtre, c'est un peu un hasard et une blague en même temps pour nous. Et on faisait après un concert à Londres, on est invité par un lord à se reposer dans son château. Et on a rencontré Johanna, qui est une actrice londonienne, qui était aussi invitée en tant qu'artiste off dans le château. Et donc on a sympathisé. Et Gassama, en fait, on l'a rencontré au 104, José Manuel Gonzalves réussit un miracle, un vrai miracle pour le coup. Que les gens se rencontrent vraiment. Et donc on a rencontré Gassama qui dansait en bas et qui évidemment nous a sauté aux yeux parce qu'il est extraordinaire. On s'est rendu compte après que c'est un peu le joystar du breakdance en France. Que c'est dès qu'on le voit dans la rue à Paris, les gamins s'arrêtent, lui demandent des autographes. Enfin, c'est un mec très, très connu dans le monde de la battle breakdance. Et donc lui au 104, voilà.
Et Guy Marquinon... Ouais.
Le conférencier, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Hein.
Guy Marquinon, c'est en fait le boss de notre label de musique, Sabrosa.
Guy Marquinon, c'est un cinéaste
belge.
Très connu, en fait, qui habite à Bruxelles et qui a édité aussi des albums de Tony Kandra, Charlemagne Palestine, qui est très proche de l'avant-garde new-yorkaise. Qui a fait des documentaires sur Pousseur, sur des conférences sur Borot dans le monde entier. Enfin, c'est un peu une sommité de la pensée belge, en fait. Et wallonne, surtout. Et il est aussi idéologue du FPLL, Front Populaire Libération de la Lotharingie, dont le spectacle est un prétexte. Voilà.
Et comment on arrive à amalgamer tous ces talents, tous ces univers et toutes ces personnalités?
Je ne sais pas si on arrive.
Ça se passe sur le plateau, ça se passe par des échanges.
Oui, ça se passe.
À l'arrivée, c'est quand même très structuré, quand même. Même si y a une interactivité entre les artistes et les images, par exemple, qui sont projetées.
Oui. En fait, les rencontres, on ramène nous-mêmes, enfin, nos vrais mêmes, avec aussi l'archétype de qu'est-ce qu'on est. Donc aussi l'idée de qu'est-ce que les gens ils ont sur nous. Et donc voilà, on a essayé de faire ça très simplement, en fait. Ouais.
Avec toujours une notion quand même de, d'humour un peu décalé. Enfin, c'est vrai que par exemple chez les Belges, notamment chez les Wallons, il y a toujours cette vision de la réalité, mais avec toujours un regard un peu oblique qui fait que tout à coup, on voit les choses un petit peu différemment et avec un autre point de vue.
Mais les Wallons, ils ont une virgule flottante dans l'humour. En fait. Ils passent de, nous, on est très 2.1, 2.2, degré 3. Alors, on a des crans dans le... Alors que eux, ils ont une virgule vraiment flottante, donc c'est évidemment plus riche.
Et voilà. nous, c'était plus, c'était pas vraiment, on n'a pas fait les blagues, quoi. Mais on a fait des, comment on dit, des grammaires qui sortent de mettre une idée à côté de l'autre. Parfois c'est drôle, parfois c'est triste, parfois ça donne des autres idées.
Parfois c'est ultra cynique aussi et puis
oui.
Ou complètement idiot et puis voilà c'est pas
mais
grave.
Mais c'est assez c'est sur une cruise sur une on peut dire je sais pas balade et donc à cette ici c'est un balade sur internet par exemple mais c'est un peu une balade consciente mais pas complètement enfin, un peu enfin, lire la théorie de la dérive de Guy Debord, c'est un peu ça.
Et comment se construit l'univers musical, alors ? Sur le spectacle ?
Pardon, j'ai pas...
Comment se construit l'univers musical ? En plus, vous voulez un son qui ne soit pas un son de grande qualité, vous voulez un son MP3, c'est-à-dire voilà, le son
il y a
un
beaucoup
peu
de sons MP3.
Moyen qu'on a ouais. Sur l'ordinateur. Quoi.
Ouais. En fait, c'est justement des captures MP3 ou des captures YouTube qui ne sont pas du tout... enjolivé, puisqu'on voulait que le son soit absolument le son qu'on entend, c'est-à-dire très compressé. Et puis il y a un mélange aussi avec des morceaux à nous, qui sont comme des respirations, ou le moment où, qui sont plutôt comme le moment où quand tu parles à quelqu'un qui regarde son portable en même temps et que tout s'écroule un peu dans la conversation. Et en fait, ce moment-là, il revient dans le spectacle, et ça, c'est de la musique. En fait, c'est des morceaux qui seront sur notre prochain album, quoi. Et puis.
Récemment, j'ai vu un film qui s'appelle Unfriended. C'est un plan fixe sur un écran d'ordinateur. Et simplement en utilisant Google, Facebook, Skype, mm-hmm. On arrive à raconter une histoire simplement avec un plan fixe sur un écran d'ordinateur. Oui. Et je retrouve un peu cette idée dans votre travail.
Bah, je pense que qu'est-ce qu'on fait sur ordinateur, c'est vraiment une miroir quelque part de notre vie. Et puis tout le monde le fait. Donc c'est vraiment un truc très... soi-disant démocratique, qui n'est pas du tout, parce que finalement tout est lié au algorithme, mais voilà, c'est égalitaire, on peut dire ça. Et c'est vraiment une miroir de qu'est-ce qui se passe. Enfin, c'est même pas une miroir, en fait, ça fait tellement grande partie de notre vie que ça fait. Peut-être que ça devient notre vie même, nos vies. Voilà.
Quand on voit votre création, moi j'ai beaucoup pensé à Je suis Charlie. Oui. C'est-à-dire que par rapport à ce qui s'est passé au début de l'année, il y a eu un mouvement, mais sans précédent quand même, en France, où ouais. Tout à coup tout le monde, où une partie de la population s'est levée, non, tout le
partie,
monde était Charlie.
Une partie de la population.
Une partie de la population, mais enfin, une partie quand même assez conséquente.
Non, pas tellement, je pense.
Pas tellement, bon, d'accord. Enfin, il y a eu quand même un mouvement très fort, y compris
dans
sur les réseaux.
Ouais, dans la bourgeoisie,
et...
ouais.
Oui. Et c'est retombé très vite, en fait.
Oui.
Alors qu'on pensait que ça allait durer.
Bah non.
Mais pourquoi ?
Pourquoi que ça se
joue ? Charlie, c'est un slogan déjà. Donc,
Oui, déjà, c'est une utilisation.
C'est un selfie de son indignation, quoi.
Donc, ouais. Enfin, ça, on parle de ça aussi. Il y a un monde qui est énorme, mais en fait, finalement, c'est une élite et qui prétend d'être les voix de tout le monde. Alors. Qui peut pas, parce qu'il n'y a pas une voix de tout le monde. Et c'est ça, on dit multiculturalisme, mais il est où ce multiculturalisme ? Enfin, il y a une idée de multiculturalisme, bon, c'est très joli, mais dans la vie réelle, est-ce qu'il y a une vraie mélange ? Est-ce qu'on est vraiment tous Charlie ? Est-ce qu'il faut être tous Charlie ? Je ne pense pas. Enfin, ce n'est pas possible. Quoi.
Quelle est la différence entre un spectacle politique et un acte politique?
Oui. Non, ça, c'est pas une... Nous, on n'est pas des activistes. On fait
no
pas
World,
des
c'est un spectacle politique.
C'est un spectacle qui, oui, enfin, qui parle de notre monde, donc aussi politique. Mais la politique, comme juste la politique, c'est très, très serré comme, comme concept. Et c'est comme Jérusalem plan durci, ce n'était pas un acte politique, même si ça parlait d'Israël comme une dictature nationale. Et ici, pareil, ce n'est pas un acte politique, on n'est pas des activistes. Et le spectacle part de sujets politiques peut-être, mais j'espère qu'elle est plus large que la politique même. Voilà.
Vous jouez tout à l'heure dans un lieu quand même assez exceptionnel, oui. Qui a une acoustique d'ailleurs assez magnifique. Hein.
Oui.
On a enregistré des disques, des CD de musique de chambre dans le Tinel. Oui. Est-ce que le lieu a une influence sur les représentations?
En fait, là, en ce qui concerne ce lieu précisément, on avait le choix entre plusieurs lieux. Mmh. Et on a choisi celui-là parce que c'est un spectacle un peu en odorama aussi, donc il fallait que ce soit un lieu fermé, pas en plein air. Ouais. Et... sinon le lieu oui parce qu'en fait on éclaire le lieu, en fait on n'est pas c'est pas une boîte noire, donc forcément. Et après je suis pas persuadé que ça influence absolument le fond de l'affaire quand même.
Non, mais je pense que ça, moi j'aime bien voir ça, le monde d'aujourd'hui dans ce
dans les vieilles pierres.
Mais c'est, en fait on a sorti un livre sur le même sujet aux éditions d'Ivoire, et en fait c'est la même chose, on a fait un vomi d'images, mais avec un peu comme le Tinel, là, c'est le bouquin. C'est comme des archives.
Ouais, on a choisi une
papier, un écrin qui apparaît joli et finalement dans, ouais. dans un monde assez étonnant à observer. Quoi. Enfin.
Et puisqu'on parle des vieilles pierres, qu'est-ce qui vous reste de l'expérience de la Mouette où les musiciens, ils étaient au perché, là, au sommet des marches.
C'était nous.
Oui.
Ce qui, en fait, ce qui
on vous apercevait à peine, mais on vous entendait quand même.
Ce qui nous en reste, c'est moi, j'ai pas déjà une énorme pression, j'ai trouvé. Ce sentiment à la première, j'ai eu l'impression, c'est la première fois que je voyais, on vient pas du théâtre, quoi, donc une première à la cour d'honneur. C'est très étrange, vu d'en haut, on était au milieu du gradin et les gens sont arrivés à la première, comme s'il y avait 2000 Kalachnikov qui se levaient, prêts à réagir. Enfin, je sais pas, un truc très étrange, Parce qu'en musique, en fait, si on aime un concert ou on n'aime pas, si on n'aime pas, on se barre, on va boire une bière, on attend le groupe suivant. En théâtre, il faut que les gens fassent des sorties extrêmement
remarquées,
ouais. Des choses comme ça.
Sonores,
ouais. Des sorties politiques. Quoi. Alors c'est mignon, puis c'est dérisoire, en même temps c'est intéressant à voir parce que c'est très vivant. Bon voilà, c'était ça un peu la cour d'honneur. Et puis surtout, j'ai trouvé de voir les acteurs comme Marie-Raymond et... Enfin, qui sont tellement gigantesques à observer dans
Adèle
les coulisses.
Adèle Haenel, Laurent Poitrenot, ouais. Il y avait une belle distribution.
Enfin, hein. C'est des gens qui nous ont vachement marqués, en fait.
Ouais. Et Arthur aussi.
Ouais.
Arthur Nouziciel, le metteur en scène. Est-ce que vous allez de nouveau nous parler d'Israël dans de prochaines créations?
Sans doute.
Moi, je suis assez épaté par le cinéma israélien, par exemple.
Oui.
Un film comme Le Policeman, par exemple, Le Policier, c'est quand même des films assez étonnants. Et quand même assez critique aussi sur...
Oui, après, encore une fois, on a parlé de ça aussi dans Jérusalem plan durci. Israël utilise ces artistes qui critiquent les pays aussi pour dire, voilà, regardez, on est en démocratie. Bon.
Bon, après, ces artistes existent, on
oui,
doit
oui,
s'exprimer.
Oui, non, mais les artistes font des trucs très bien. Les artistes font des trucs très bien. Après, voilà.
No World, FPLL, c'est jusqu'au 12, c'est-à-dire jusqu'à dimanche, c'est à 18h, dans le Tinel de la chanteuse, de la chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, avec donc Ruf Rosenthal, Xavier Klein, et je vais essayer de ne pas extropier leur nom cette fois-ci, Johanna Halit, Mamadou Gassama,
oui.
Guy-Marc Inan et vous-même, Ruf Rosenthal. Merci beaucoup,
merci
et puis à très bientôt au Festival d'Avignon.
Merci.